Aujourd'hui, dans les studios de Radio Royan-Vercors à Saint-Jean-en-Royan, nous recevons Pierre-Antoine Landel. Bonjour Pierre-Antoine.
Bonjour Charline.
Alors, on te reçoit parce que tu fais partie du comité éditorial qui vient de paraître le numéro 100 de la revue Études Dromoises. Donc c'est un numéro qui est paru en décembre 2024 et c'est une revue qui parle du patrimoine de la Drôme. Donc tu vas pouvoir nous en dire plus, nous présenter la revue déjà et puis peut-être nous dire juste après comment est-ce que tu as été amené à contribuer et à coordonner ce numéro 100. Et puis après on pourra parler de quelques articles qui se trouvent à l'intérieur et puis bien sûr on fera le tour des endroits dans le Royan-Vercors où on peut trouver cette revue. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter cette revue, donc Études Dromoises?
Alors, c'est une revue qui a un certain âge maintenant. Elle est née en 1960. Elle est née, donc il y a presque 65 ans. Et elle est née à l'école normale d'instituteurs, qui était quand même une institution dans la Drôme, hein, puisqu'elle formait les maîtres et les maîtresses d'école. Et à l'époque, il y avait des enseignants de cette école normale qui avaient fondé une association qui s'appelait l'Association universitaire d'études dromoises, puisque déjà la formation des maîtres relevait de l'université. Et pour rendre accessibles des connaissances à partir de la Drôme, déjà apparaissait la question pédagogique d'enseigner à partir du terrain, d'enseigner à partir du territoire et enseigner la géographie, enseigner l'histoire, enseigner la topographie, les lieux, etc. Eh bien, l'idée, c'était de faire des articles à partir des lieux. Et les premiers bulletins, c'est sous forme ronéotée, c'est-à-dire c'était des ronéos.
Et c'est quoi des ronéos?
Des manuscrits, enfin okay. Des tapuscrits. C'était tapé à la machine quand même, mais c'était pas du tout à l'ordinateur. Hein. Et c'était comme des cours. Mais ils étaient localisés. Le numéro un, c'était avec Monsieur Dezaï, qui est très connu à Die, qui était spécialiste de l'Antiquité romaine. C'était des articles de très très bonne qualité, très bonne facture. Et ça accompagnait aussi des sorties terrain des instituteurs de l'association universitaire d'études dromoises. Donc on trouvait déjà les prémices d'un changement de pédagogie à partir du terrain, à partir des lieux. Petit à petit, la revue s'est développée. D'abord, elle est devenue sur support un petit peu plus important. Elle s'est institutionnalisée en ce sens qu'en 1979, elle a pris le titre de « Études dromoises » au lieu de « Bulletin de l'Association universitaire des études dromoises ». Et puis, elle a été reconnue comme publication au titre de la presse qui donne lieu à des tarifs préférentiels pour la diffusion. Et puis en 1986, elle a pris les services d'un imprimeur. Elle est devenue imprimée, vraiment jolie. En 1997, elle est devenue trimestrielle, c'est-à-dire qu'il y avait 4 bulletins par an. Et elle a pris comme sous-titre « Revue du patrimoine de la Drôme ». Patrimoine au singulier, c'est-à-dire patrimoine au sens très très large. Et elle a vu encore son champ s'élargir à l'archéologie, l'architecture, les sciences de la vie et de la terre, la nature, l'art, la gastronomie même. Et donc c'est devenu une revue qui s'est voulu à la fois de qualité, c'est-à-dire qu'il y avait un graphiste qui intervient avec de la couleur, avec de la photo, mais aussi en même temps sur un joli papier et qui se voudrait accessible à tous. C'est-à-dire que c'est pas non plus une revue universitaire. Les articles sont relus, certes, par le comité de lecture, mais il n'y a pas d'intervention sur le contenu de façon autoritaire, etc.
On va pouvoir découvrir donc dans ce numéro une sélection, en fait, comme tu dis, de l'actualité, des richesses de la Drôme, en particulier sur son patrimoine. Et moi, je voulais t'interroger sur cette notion de patrimoine qui a l'air de faire partie de votre ligne éditoriale, d'être un élément fort. C'est quoi le patrimoine? Parce qu'on en parle de patrimoine naturel, culturel, matériel, immatériel. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Et justement, la revue, elle est intéressante en ça parce qu'elle montre l'évolution de cette notion de patrimoine. Je crois que c'est une notion assez importante pour comprendre les sociétés et la façon dont elles se construisent. Le patrimoine, c'est quand même à la fois issu d'un héritage qui est transmis, c'est issu d'une sélection, Hein, ceux qui transmettent un héritage sélectionnent ce qu'ils veulent transmettre. Mais ceux qui le reçoivent le sélectionnent aussi. C'est intéressant parce qu'on peut le rapprocher de ce qui se passe dans une famille. Quand on reçoit un héritage, eh bien, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va l'étudier. On va voir ce qu'il y a dedans, comme on dit. Et en particulier, on emploie l'expression « on va voir ce qu'il y a de la valeur ». On va voir ce qu'il y a de la valeur et on va sélectionner en fonction de ce qu'il y a de la valeur. Il y en a une partie qui, naturellement, va être éliminée. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas de valeur. Mais au regard de ce que nous, qui recevons ces patrimoines, jugeons comme ayant de la valeur. Il y a une autre partie qui va être conservée. Conservée peut-être en l'état. On va le mettre dans le grenier, puis on va dire, ah ben, on ne sait jamais, ça peut servir un jour. Et puis, il y a une partie qu'on va... On va aller plus loin que de le conserver, on va le restaurer, on va le remettre en état. Et puis, dans certains cas, il y a une partie qu'on va exposer, on va le remettre visible pour les autres. Et puis, il y en a certains objets qu'on va aussi parfois transformer. Et bien, c'est exactement le même mouvement qui se passe au niveau des sociétés locales, à toutes les échelles. L'État, pour construire la nation française, a défini ce que c'était que le patrimoine national, avec tout un tas d'institutions qui vont étudier, conserver, restaurer le patrimoine, à voir l'exemple contemporain de Notre-Dame de Paris. Eh bien, ce même processus se situe à toutes les échelles. Ça se situe à l'échelle des départements. Les départements ont souvent des conservations départementales, etc. Ça se situe maintenant souvent au niveau des communes, et au niveau des intercommunalités qui, pour se construire, par exemple le parc du Vercors, eh bien, il a toute une politique patrimoniale qui a été importante, peut-être moins maintenant, mais pendant toute la phase de sa construction, etc., il a mis en place des études sur le patrimoine, le CPIE quand même avait un rôle assez important pour comprendre ce que c'était que le patrimoine du Vercors, et puis il a eu un rôle pour le conserver et puis pour le mettre en valeur. Et je crois que ça, c'est une notion importante, c'est que le patrimoine, il sert à construire du territoire. Il sert à construire des territoires, mais il ne sert pas qu'à ça. Et la revue, elle montre vraiment toute cette évolution de la notion de patrimoine, en sens que la notion s'est élargie. Hein, souvent, ce qu'on a en tête pour constituer le patrimoine d'un territoire, c'était les éléments historiques, les châteaux, les églises, etc. Et bien la revue, si vous prenez sur 60 ans d'existence, vous verrez cet élargissement à l'infini de la notion de patrimoine. Élargissement, alors dans la nature, quand le ministre André Malraux, qui était le premier ministre de la culture, a défini ce que c'était que l'inventaire du patrimoine, il a employé une expression qui est toujours d'actualité. Il disait ça allait de la cathédrale à la petite cuillère. Eh bien, cette expression-là, vous verrez, elle existe encore, quoi. Ça veut dire que maintenant, tout devient patrimoine. C'est un peu ça la tendance. Et ça s'élargit d'abord au patrimoine culturel, mais aussi au patrimoine naturel, au patrimoine matériel, mais aussi au patrimoine immatériel. Tout ce qui est les parlers locaux, les parlers anciens, les savoir-faire, les pratiques anciennes, les fêtes anciennes. Tout ça, ça devient des éléments du patrimoine. Et pour moi, quand j'observe la revue, elle représente cette mobilisation du patrimoine pour accompagner la modernisation du département. C'est-à-dire que pour se moderniser, eh bien, on a besoin de mobiliser ces patrimoines pour avoir des repères, mais aussi permettre la transmission de valeurs qui ont fait l'histoire et dont certaines sont encore maintenues. Alors, peut-être pour faire le lien avec ce numéro 100, c'est que la question qui est posée dans ce numéro 100, qui se veut un petit peu exceptionnel, c'est que aujourd'hui, on vit une période particulière dans la modernisation, c'est celle de la transition. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que notre monde atteint des limites de ressources, c'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à moderniser le pays comme on l'a fait jusqu'à présent, en exploitant des ressources à l'infini, alors qu'on sait qu'elles sont finies, qu'elles sont limitées. Et donc, il s'agit carrément de changer de système. Et changer de système, c'est pas quelque chose d'anodin. Ça s'accompagne de très, très fortes tensions. de très fortes tensions qu'on vit aujourd'hui, au jour le jour. On est dans un monde pour le moins chaotique, et ces tensions, elles sont issues du fait qu'on n'a pas tous la même attitude par rapport à cette finitude des ressources. Il y en a qui n'y croient pas du tout, il y en a qui y croient, il y en a qui pensent qu'il y a des solutions, il y en a qui pensent que certaines solutions ne sont que techniques, il y en a d'autres qui pensent que les solutions sont sociales, politiques, etc. Et donc tout ça, ça crée un vaste chamboulement. Mais ce qui nous a intéressé dans cette revue, c'est de montrer que, là encore, le patrimoine était pensé pour accompagner cette transition. Et que on a pris 12 auteurs drômois pour décrire 12 cas de mobilisation du patrimoine au service des transitions. Et ceci dans différents domaines, à la fois des domaines du quotidien comme le domaine de l'habiter, la façon d'habiter le territoire, la façon d'y travailler, la façon d'y créer, mais aussi la façon de s'y alimenter, la façon d'y produire de l'alimentation, c'est-à-dire de faire de l'agriculture, la façon de produire de l'énergie, la façon de se déplacer. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est assez exceptionnel. Dans la Drôme, sur des différents domaines, on peut trouver 12 cas d'études, mais je pourrais vous en citer d'autres, hein, qui auraient pu être mobilisés au service de cette transition. Et la question, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi ? Eh bien, c'est toujours la même question. C'est que le patrimoine, il a des vertus de révélation, de valeurs qui sont transmises même dans des périodes de mutation. Et il y en a une qui est très très importante à comprendre, c'est que ça permet d'inscrire le changement dans le temps long des territoires. Dans le temps long des territoires, il y a toujours des histoires. Tout territoire, il a une histoire très très longue. Et la Drôme a une histoire très très longue, mais aussi des pays de la Drôme ont une histoire très très longue. Le Royan, le Vercors, a une histoire très très longue, à la fois de massifs de montagnes, mais aussi de relations avec des territoires environnants, avec des vallées environnantes, etc. Mais ça a créé des valeurs, ça a créé des savoir-faire, etc., qui sont transmis sur la longue durée et qui peuvent être mobilisés pour penser la transition. La transition, c'est pas nécessairement la rupture totale avec le passé, avec les valeurs du passé, mais au contraire, c'est la façon dont on peut les inscrire dans le temps long du territoire. Et ça, c'est une première vertu de la mobilisation du patrimoine. Et enfin, il y a une dernière notion qui pour moi est très très importante, c'est que le patrimoine, eh bien, c'est fait pour construire du commun. Et que le commun, c'est pas uniquement ce qui relève de l'État, ce qui relève des services publics. Les territoires sont capables de construire du bien commun encore maintenant. Alors, dans le passé, ils ont construit du bien commun. Par exemple, les rivières faisaient l'objet d'usages locaux qui étaient régulés par des règles, par des accords entre justement les propriétaires et puis les usagers pour pouvoir tirer du matériau, par exemple du sable, des pierres, pour pouvoir tirer du bois, pour pouvoir utiliser de l'eau, mais selon des usages qui étaient définis en commun, qui étaient définis localement. Et c'est ce qui faisait la construction de commun. Et aujourd'hui, autour du patrimoine, eh bien, les acteurs peuvent se réunir pour tout simplement débattre, décider et agir ensemble au service de la préservation de ce commun. Et on trouve là une définition toute simple du patrimoine, toute simple, mais qui pour moi est très très importante. Le patrimoine, c'est ce qui nous relie. Et au moment où la société est complètement fracturée par des tensions liées aux transitions, eh bien, revenir à la recherche de ce qui nous relie, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est pour ça qu'il nous semble important d'attirer l'attention sur la façon dont aujourd'hui les patrimoines sont mobilisés au service de ces transitions.
Merci pour cette belle définition et de la manière dont vous vous en saisissez en fait dans cette ligne éditoriale. Et juste pour préciser, donc moi je voulais te demander comment est-ce que tu as été amené à contribuer et à rencontrer cette revue, parce que on sent bien que tu es animé par ces questions-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais toi dans ta pratique professionnelle en parallèle?
Oui. Alors, et je suis pas là pour raconter ma vie, mais c'est quand même, quelquefois, il faut en parler un tout petit peu. De formation, je suis ingénieur en agriculture, moi. Donc, j'ai commencé à travailler dans l'agriculture, dans la Drôme, dans le syndicalisme agricole, dans la Drôme. Et puis, j'ai rejoint le milieu des collectivités et dans le domaine de l'agriculture, puis après de l'environnement. Je me suis occupé de l'environnement dans la Drôme et je me suis occupé du développement territorial, développement local dans le Diois. J'ai été directeur de l'intercommunalité du Diois. Et puis, j'ai fini pour la carrière dans les collectivités locales au Conseil général de l'Ardèche, où j'étais responsable de la culture et puis de l'éducation. Donc, je suis passé de l'agriculture à la culture, comme ça, en 22 ans, je crois, de carrière. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire qu'assez vite, je me suis aperçu que la façon dont on pouvait considérer la place de la culture dans les territoires était assez importante pour essayer de créer du lien plutôt que justement que de la fracture, et pour créer du lien pour faire du développement territorial ou du développement local ou tout simplement du développement social, c'est-à-dire permettre à chacun de trouver sa place sur un territoire. Et c'est vrai que j'ai eu une chance inouïe, c'est que à 45 ans à peu près, j'ai pu rentrer à l'université où je suis devenu enseignant-chercheur en géographie, aménagement du territoire, et je me suis intéressé au développement des territoires de l'arrière-pays de la Méditerranée, en France, mais aussi un petit peu au Maroc, en Algérie, en Tunisie, un petit peu moins, mais aussi de temps en temps en Espagne, en Italie, en Grèce. Et donc, j'ai eu cette chance de réfléchir à cette notion d'arrière-pays et puis de la façon dont ils évoluaient. Là aussi, assez vite, je suis tombé sur cette notion de patrimoine. Et je me suis aperçu qu'elle servait à la fois pour du développement territorial, tout simplement, au travers d'une notion qui est un peu compliquée à expliquer, c'était la ressource territoriale, la façon dont les acteurs se saisissaient de ressources qui sont spécifiques au territoire pour accompagner leur développement, pour résister, au contraire, à la mondialisation des économies. On a un exemple ici tout simple. On en a plusieurs, d'ailleurs, en Royan-Vercors. On a le bleu du Vercors-Sassenage. On a le Picodon, comme partout. On a la noix de Grenoble. Eh bien, à chaque fois, on trouve ce même processus de mobilisation d'une ressource spécifique pour exister sur des marchés mondiaux. Et ça, c'est un premier usage qui a été fait, mais aussi, on retrouve aussi, alors on le retrouve aussi au Maroc, hein, en Algérie, on retrouve les dattes, on trouve le safran, on trouve d'autres productions comme ça, mais on trouve aussi cette mobilisation du patrimoine par des savoir-faire, par des mobilisations d'acteurs qui se coordonnent pour faire face aux crises. Et le dernier exemple que j'ai vu, moi, c'est dans les montagnes marocaines, des montagnes très difficiles, qui sont actuellement très touchées par les sécheresses, qui sont quand même assez terribles, hein, en particulier dans le sud Maroc. Alors, depuis, heureusement, il a un peu plu. Parfois beaucoup, d'ailleurs, avec des dégâts. Mais j'ai constaté avec une ONG qui s'appelle Migration et Développement, qui développe des liens entre le Nord et le Sud, et avec des échanges entre des migrants du Nord et puis des populations du Sud, eh bien, ils ont travaillé sur des productions spécifiques. Mais aujourd'hui, ils en sont à travailler sur ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative, c'est-à-dire qu'ils vont dans des coins extrêmement secs, dans le massif du Sirois, au sud de l'Atlas. Ils font des rigoles, quoi, comme des terrasses. Dans ces rigoles, ils posent des boules d'argile qui sont remplies de graines, endémiques, issues du territoire, et dans lesquelles, bon, ben, ces boules ont une capacité à résister au vol par les oiseaux, etc. Et puis quand il pleut, ils ont peut-être une plus forte chance de favoriser la germination. Et il s'avère que quand on regarde ce qui se passe, pour faire ça, il faut mettre en défense des terres, c'est-à-dire défendre l'arrivée des troupeaux, puisque les troupeaux détruisent les moindres plants et tout ça. Et pour faire ça, ils vont mobiliser à la fois des collectivités modernes, l'administration moderne, l'administration des communes, etc., mais aussi les anciennes assemblées, au Maroc, ça s'appelle les Jma, qui rassemblent des anciens, plutôt des sages, des notables, etc., qui, eux, ont capacité à avoir autorité sur les tribus et sur les habitants et à mettre en défense des terres. eh bien, on s'aperçoit que ces structures qui sont considérées souvent comme étant dépassées, ancestrales, etc., elles retrouvent leur utilité. Et on trouve des vieilles organisations qui constituent des patrimoines aussi, des patrimoines d'organisations sociales pour accompagner ces mutations. Et ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut apporter beaucoup d'attention. C'est-à-dire que si on veut saisir ce qui se passe aujourd'hui dans la transition, il faut toujours avoir attention à insister sur ce qui relie, sur ce qui fait lien et non pas sur ce qui fait fracture. Au contraire, ça, il faut le mettre de côté comme si, malheureusement, il y en a qui l'exploitent, dont c'est le métier de l'exploiter. On le voit actuellement. Bien sûr, on a l'exemple américain, mais on l'a pas loin de chez nous aussi. Et au contraire, il faut porter toute notre attention sur ce qui fait lien.
Et donc, comment est-ce que tu es passé donc de ces travaux où tu as pu donc étudier tous ces arrière-pays à cette revue Études Drômoises où j'imagine il y a aussi la diversité des géographies et des patrimoines et des cultures au sein de la Drôme, parce qu'en fait il y a entre le Diois, le Royan-Vercors, la Drôme des collines vers le nord, il y a toute une grande variété d'identités culturelles et j'imagine de formes de patrimoine également. Comment est-ce que tu as été amené à contribuer à cette revue?
Tout simplement parce qu'une revue, c'est une association, hein. C'est quelque chose qui se renouvelle régulièrement au fur et à mesure des années. Et c'est vrai que moi, je suis maintenant à la retraite. Et donc, c'est pas que je cherche des activités parce que je trouve que c'est un peu un trop plein d'activités, cette période. Mais bon, je suis arrivé dans l'association et j'ai fait quelques petits articles. Et puis là, se posait au début de l'année la question du numéro 100. Donc, tout le monde cherchait un thème et tout ça. Et j'ai proposé ce thème, c'est le patrimoine pour l'avenir. C'est-à-dire, même au début, c'était le patrimoine pour construire l'avenir. Et puis, pour simplifier le titre, vraiment, c'est devenu le patrimoine pour l'avenir. Et je pense que ça marchait assez bien avec ce que j'avais fait et puis avec l'actualité. Et c'est pour ça que le comité de rédaction a accepté ce thème. Et puis après, on a cherché des rédacteurs sur les thèmes aussi qui étaient visés. C'est-à-dire que il fallait assez bien orienter, quoi, les auteurs. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de connaître un certain nombre d'entre eux. Il y en a d'autres qui ont eu des idées, quoi. Et on a formé ce groupe des 12 rédacteurs avec une ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'il y avait un thème quand même. Il fallait décrire le territoire sur lequel il s'inscrivait et puis décrire en quoi il était mobilisé pour des transitions. Et ça donnait un plan type qui était mobilisé par les 12 auteurs et ça donnait le résultat que vous avez entre les mains.
Ouais, j'ai cette belle revue entre les mains d'une cinquantaine de pages à peu près. Et on va peut-être pouvoir justement balayer le sommaire. Donc, dans ces différentes thématiques, on en parlait tout à l'heure, il y a l'alimentation, il y a la production d'énergie, le déplacement, la culture et les arts, l'habitation. Est-ce que tu pourrais choisir peut-être un ou deux articles, notamment ceux qui touchent le Royan-Vercors? On a plusieurs articles qui en parlent. Peut-être on peut commencer par l'article dans la rubrique culture, donc quand le Vercors fait son bazar.
Écrit par Michel Fontaine, hein, qui est le porteur de...
Porteur de la Compagnie de la Sirène, il en fait partie.
Compagnie de la Sirène, pardon.
Donc c'est une rencontre que tu as eue avec Michel Fontaine. On en a déjà parlé à notre micro du bazar du Vercors. On a reçu d'ailleurs Michel à ce propos. Qu'est-ce qui se raconte dans cet article? Quel est le lien avec le patrimoine?
Alors ça, c'est ce que tout le monde pose comme question. Quel est le lien? Là, on dit, là, vous exagérez un peu, ça n'a aucun lien, tout ça. Eh bien, moi, je pense qu'il y en a un. C'est-à-dire qu'il faut partir d'une situation dans le Vercors où on a une omniprésence du patrimoine issu de la guerre, issu de la résistance. Et alors, il faut faire attention aux mots que je vais employer parce que c'est quand même pas tout à fait adapté, mais quand même une espèce de saturation. C'est-à-dire que si vous prenez un village comme Vassion-Vercors, bien c'est assez extraordinaire de voir qu'il y a pas moins, dans un village de 300 habitants, il y a trois musées, trois espaces muséographiques, et un qui relève plutôt de l'autorité de l'État, c'est le mémorial, un qui relève du conseil régional avec le parc du Vercors et avec le mémorial du col de la Chaux. Et puis, il y en a un qui relève plutôt du département. et avec le musée de la résistance de Vassieux en plein milieu du village. Et c'est assez intéressant de voir que ben, ces trois niveaux de collectivités différents qui interviennent sur le même objet, qui est la résistance, comme si chacun revendiquait une part de la mémoire. C'est pas choquant, mais c'est juste un constat. Mais c'est juste de voir que dans le Vercors, ben, les populations évoluent et puis les rapports au patrimoine évoluent. Et qu'il y en a, il y a des gens qui ont d'autres idées. Par exemple, à Vassieux, il y a une éminente association qui s'appelle VESPA, Vassieux et son patrimoine, qui a remis en état les tours et puis qui a mis en évidence d'autres systèmes d'usage de l'eau avec le moulin artificiel. Quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis, il y a cette association culturelle qui s'est installée à Saint-Martin-en-Vercors et qui a créé le Grand Bazar du Vercors. Mais quand on regarde les programmes, tous les ans, ils mobilisent un patrimoine différent avec un groupe qui s'appelle le groupe Patrimoine en Vercors. Ça a été une année l'accordéon. L'accordéon, ça peut être aussi un patrimoine. Hein. Ça a été le pain, ça a été la bicyclette, ça a été le temps, la façon de considérer notre rapport au temps. Et je crois que le prochain, ça va être plus compliqué de rapprocher au patrimoine, mais je suis sûr qu'ils vont y arriver. C'est la rencontre. Mmh. Et donc, chaque fois de faire de la création culturelle, de la création d'animation quoi culturelle, soit des chansons, des rencontres, des débats, des fêtes, etc., à partir d'un thème, mais qui mobilise le patrimoine, donc un objet du passé. Et là, on voit apparaître quand même quelque chose d'assez important, à mon avis, deux choses. Hein. C'est que, oui, le rapport au temps. C'est-à-dire que ben on est dans un territoire où peut-être on n'est pas soumis à l'accélération au quotidien qui est vécue par des populations urbaines qui sont sans arrêt dans le mouvement, dans l'échange, etc. Là, on est peut-être dans un rapport au temps différent et qui permet de sortir de toujours plus vite. Et ça, je crois que c'est un apport important pour penser la transition. Que la transition, ça peut être quelque chose d'heureux si on va vers un monde plus sobre, mais en même temps plus lent. Et que, oui, la lenteur, c'est quelque chose d'important. Et peut-être que ce genre d'événement, comme le Grand Bazar du Vercors, nous permet de sortir de ce rythme effréné, de changer de rythme pour prendre le temps de goûter les choses, de les sentir, etc. Et puis, il y a une autre dimension qui est importante, à mon avis, pour le Vercors, quoi. C'est que ça existait aussi dans le passé, hein. Le Vercors, il n'y a pas que la neige dans le Vercors. La neige, comme ressource, ça a été révélé il y a un siècle à peu près, alors qu'avant, c'était plutôt un obstacle, la neige. C'était plutôt quelque chose qui était rebutant. Là, c'est devenu une ressource. Manque de peau, elle disparaît. Mais il peut y avoir d'autres ressources qui peuvent être mises en avant. Et parmi celles-ci, la culture, la pratique culturelle, l'action culturelle, le fait de chanter, le fait d'écrire, le fait de lire, etc. Mais ça peut être mis en avant, que ça peut être aussi une ressource pour l'avenir du Vercors, comme le sera certainement le bonheur du Vercors, qui est toujours la ressource permanente et qui sera toujours recherchée, et de plus en plus, puisqu'on en aura de plus en plus besoin.
Et justement, donc, quand tu parles de ces besoins et de cette vision du patrimoine pour l'avenir, on voit bien le Grand Bazar, cette question du patrimoine culturel, donc autour du cirque qui a été déployé dans chacun des villages du plateau, elle a permis de se relier. Il y a eu ils ont investi l'espace public, ils ont investi aussi certaines formes patrimoniales, les églises, les clochers d'église, ils ont dansé dessus, ils ont réinvesti les places de village. Enfin, tout ça, c'est des formes peut-être qui appartenaient parfois à certaines formes du passé, mais qui réactualisées, on s'en resserre, on se les réapproprie et on vient créer du lien entre les habitants, les touristes aussi, parce que c'est un moment de l'année où il y avait beaucoup de touristes. Et ensemble, on se retrouve autour de ces formes culturelles. Et donc, bah, j'imagine que vous en parlez dans votre article. Et,
oui,
je trouve ça intéressant d'aller ta lecture aujourd'hui.
Ce qui est vraiment intéressant, moi, je trouve, hein, dans le Vercors, même si aujourd'hui la communauté de communes fait Royan-Vercors, ce qui, à mon avis, c'est un résultat d'un choix à la fois administratif et politique, puisqu'on sait que c'est pas que les élus qui ont fait le choix, c'est aussi le préfet. Hein. Ça, je connais bien la question, pour dire qu'il faut faire très attention pour comprendre les découpages intercommunaux. Mais ce qui est intéressant, quand même, c'est que les gens se parlent. Entre Vassieux, bon, qui était toujours considéré comme étant un peu à part, entre les gens de Saint-Julien, dont on pensait qu'ils étaient plutôt penchés vers Villars, entre les gens de Bouvante, Lente, etc., qui sont plutôt penchés vers le Royan, bien là, tout le monde se met ensemble et se rencontre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce qui se passe pendant le grand bazar lui-même, il y a ce qui se passe avant pour la préparation et ce qui se passe après. Tous les ans, ils font un petit film, ils le passent à la salle des fêtes de Saint-Julien. Je crois qu'il y avait cette année 150 personnes, et ils reparlent de ça, et ils repartent ensemble avec des projets encore plus ambitieux, etc. Et ça, c'est tout simplement faire territoire. Faire territoire, ça veut dire débattre, décider et agir ensemble. Débattre, décider et agir ensemble, c'est la base de la politique. La politique, c'est pas que débattre, c'est aussi décider. Et c'est pas décider tout seul, c'est décider ensemble. Et ensuite, c'est agir, mais c'est pas que le politique qui agit, c'est tout le monde qui agit. L'associatif a le droit d'agir, l'habitant a le droit d'agir, l'entreprise a le droit d'agir, mais on agit, si c'est possible, dans des directions communes. Eh bien, c'est ça qu'on retrouve dans un territoire.
J'ai envie de me saisir de ce que tu viens de dire, donc de cette question, de cette manière de faire politique et de décider de ce qu'on veut pour le territoire, avec un article qui est présent donc dans cette revue. On part du côté de Saint-Jean-en-Royans et de Saint-Laurent, où il y a le pont du tram. Donc vous y consacrez un article sur, donc à propos de la rénovation de ce pont du tram. Il y a beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices qui ont suivi ce projet, puisque je crois que c'est un groupe d'habitants qui a émis l'hypothèse que ce pont du tram pourrait être rénové, notamment pour des mobilités douces. Et donc, c'est ce qui va être fait. Donc, on apprend dans votre article, et on l'a entendu aussi dans des bruits de village, le pont va être rénové donc à partir de la fin 2025. Ça va mettre un peu du temps, mais il va permettre de relier donc Saint-Jean à Saint-Laurent par des mobilités douces. Donc, il n'y aura pas de voitures qui vont être autorisées sur ce pont. Quel est le choix de faire un article sur ce pont, c'est la rénovation du pont?
Alors d'abord, l'article, il est écrit par Lucien Dupuis, hein, qui est un grand connaisseur de la Drôme aussi. Et donc, Lucien Dupuis, il connaît assez bien l'histoire du tram, hein, qui est assez intéressante, puisqu'il a structuré quand même les rapports entre le Royan et Romans. Hein, c'était un tram qui avait une ligne assez extraordinaire, qui allait de Romans jusqu'à Pont-en-Royans, en traversant tout le Royan de la Drôme, quoi, et avec des ouvrages d'art pour l'époque importants, dont le pont du Cholet, qui donc s'appelle aussi le pont du tram aujourd'hui, entre Saint-Jean et Saint-Laurent, qui passe sur le Cholet et qui était issu d'une construction en métal assez proche des constructions d'Eiffel à la fin du 19e, début du 20e, et qui a servi quelques années, puisque les trams, malheureusement, ça n'a pas été utilisé très longtemps. Les compagnies de bus ont été rapidement assez puissantes pour obtenir l'élimination des trams. Mais il n'en reste pas moins que la ligne, d'abord, est un patrimoine en soi. C'est quelque chose de joli de se promener dessus, etc. Et elle a des caractéristiques vraiment intéressantes, hein, pas plus de 3 cm de montée par mètre, hein, ce qui en fait quelque chose d'assez confortable. Tout est calculé pour ça, tous les virages, toutes les courbes, etc., sont calculées pour permettre le respect de ce dénivelé. Et le pont du tram, c'est vrai que c'est une trace importante de cette histoire qui a fait le Royan. Et il a été étudié. Alors malheureusement, à un moment donné, il a été couvert de béton, et le béton a considérablement fragilisé la structure. Donc son avenir était menacé, à tel point que maintenant il est fermé. Les piétons n'ont même plus le droit d'y circuler. Alors il y a eu une mobilisation locale forte, pour mobilisation des habitants qui ont mis en évidence la valeur du site, etc. Il y a même des études sur le pont, donc on voit bien l'étude, on étudie la valeur et on s'aperçoit qu'il y a une valeur historique. C'est un pont qui marque une histoire de l'industrie, de l'aménagement du territoire en France, et ce en quoi il a de la valeur. Après, ça a été repris par la communauté de communes qui l'a inscrite à son schéma directeur des mobilités. Et puis aujourd'hui, c'est repris par le conseil départemental, qui en est quand même propriétaire, et qui devrait le rénover pour en faire une piste cyclable, donc au service de ce qui s'appelle les mobilités douces, et pourquoi pas d'un projet complètement innovant pour contribuer à régler les problèmes de mobilité dans le Royan, qui sont très très importantes. Hein. C'est-à-dire que ici, on est quand même dans un territoire où il est difficile de concevoir une vie sans voiture, sans automobile. Et donc, ce qui est quand même problématique, et on sait que les mobilités douces, les mobilités, l'électromobilité, les vélos électriques, ça permet quand même des déplacements de 17 km au quotidien. Ce qui est beaucoup plus important hein, que ce qu'on croit. Et ça permettrait de relier plus facilement la gare de Saint-Hilaire-Saint-Nazaire, donc les mobilités vers Grenoble, vers Valence, et vers Romont, bien sûr, qui pourraient être restaurées avec des modes de déplacement plus compatible avec les exigences du futur.
Ouais, donc cet article-là sur le pont du Cholet, donc sur cette conversion du tram au vélo, elle illustre très bien ce que t'expliquais en début de cette interview sur cette question de la modernisation du patrimoine et de sa perpétuelle
transformation.
J'ai vu que t'avais aussi écrit un article, toi, sur l'agriculture. La biodiversité porteuse d'une agriculture paysanne et sauvage. Et j'avais envie de t'interroger là-dessus parce que il y a quand même pas mal d'auditeurs et d'auditrices dans le coin qui s'intéressent à des nouvelles formes, ou peut-être à discuter si elles sont nouvelles, en tout cas, des formes d'agriculture paysanne, qui essayent de combiner différentes manières de faire. On a la ferme des Roussets à Saint-Jean, mais il y a aussi la ferme de la Clé des Sables à Saint-Lathier, il y en a sur le plateau aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ton article et de ce que tu y racontes?
Alors, ça part d'une introduction un peu générale. Il s'avère que j'étudie encore un peu maintenant la dynamique de transition vers l'agriculture biologique dans la Drôme, puisque c'est un département vraiment intéressant pour ça, puisque ça a été longtemps le premier département bio de France, qu'on appelle comme un slogan, quoi. Et il s'avère que j'ai étudié le processus sur 50 ans. Et ce qu'on voit apparaître, c'est quand même trois phases assez nettes. Première phase, c'est le temps des pionniers, c'est-à-dire des agriculteurs, des paysans, qui ne sont pas nécessairement des néo-ruraux, hein, loin de là. Il y a des paysans vraiment traditionnels, tout ça, qui à un moment donné ont refusé certains aspects de la modernisation. Meilleur exemple que je connais, c'est quelqu'un qui avait refusé de mettre de l'antibiotique dans l'eau pour les poules. Le jour où le technicien lui avait demandé, il avait du jour au lendemain décidé d'arrêter et de passer à un autre mode de production biologique, le maire boucher, etc. Et donc là, on trouve des cas comme ça qui sont en géographie des lieux, en sens que ce sont des fermes isolées. Il y a peu de liens avec d'autres, si ce n'est d'appartenance à des réseaux, des grands réseaux, qui étaient par exemple le cas de le maire boucher, qui était une des premières techniques de l'agriculture biologique. Il y en a eu d'autres. Et tout ça, ça a fait une première phase, quoi, assez importante. Il n'y a pas de déterminisme géographique particulier. On en trouve dans la vallée du Rhône, on en trouve en montagne, etc. Deuxième phase, c'est là, ce que j'ai appelé le temps des territoires. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui se sont saisis de la question. Plutôt, l'exemple meilleur, c'est le Diwa, avec un projet qui est parti là plutôt de néo-ruraux, à partir d'une filière bien particulière qui était les plantes aromatiques et médicinales, pour lesquelles il y avait besoin de production bio. Et comme il y avait besoin de cette production bio, ils ont incité, et les pouvoirs publics les ont suivis, pour mettre en place des programmes plus globaux de développement de l'agriculture biologique dans le Diwa, avec les quatre coopératives, la coopérative de céréales, la coopérative Clairette de Die, la coopérative d'approvisionnement. Et ça a créé une vraie dynamique locale qui fait qu'il y a un nombre très important d'agriculteurs du Diwa qui sont passés au bio. Et qui s'est vu, alors là aujourd'hui encore, c'est presque 40-50% des agriculteurs du Diwa qui sont en bio, ce qui a fait un taux très élevé en France. En France, en moyenne, on a 6% d'agriculture en biologie. Il y a d'autres cas dans la Drôme qui sont comme ça. Le plus important, c'est dans le Cédronais. C'était aussi des néo-ruraux avec ils avaient mis en place un marché qui s'appelle la foire bio de Montfroc et ils ont relancé les poutres. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a aujourd'hui, il y a à nouveau une crise de l'agriculture biologique et une tendance au retour à des systèmes conventionnels, des systèmes, même en restant en bio, on emploie les mêmes systèmes qu'avant, modernisation, spécialisation, intensification, avec toujours plus de mécanique, du robot. Maintenant, on voit apparaître des drones, on voit apparaître de la génétique, réapparaître de la génétique, etc. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle ça le retour au conventionnel de l'agriculture biologique. Mais, en réaction, on voit des agriculteurs qui approfondissent, c'est-à-dire qu'ils vont encore plus loin. Et on trouve dans la plaine de Valence, près de Montpellier, une ferme qui s'appelle le Grand Laval, dans laquelle, eh bien, eux, leur hypothèse, c'est de réensauvager les fermes, c'est-à-dire de remettre du vivant, dans les exploitations, directement dedans. Et donc des nichoirs, favoriser dans certains cas le retour du castor, etc., des espèces qui sont plutôt considérées comme étant pas nuisibles, mais quasiment par d'autres. Et bien là, au contraire, le choix, c'est de les remettre au centre de tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font pas tout seuls. Ils sont en lien avec des chercheurs, des équipes de scientifiques qui les accompagnent. Et donc un rapport particulier avec la science dans lequel il y a un accompagnement qui est fait à ce niveau-là, mais aussi un vrai travail de réseau. Ça s'appelle le réseau des fermes paysannes et sauvages. Et c'est un réseau qui se veut plutôt de proximité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'une heure entre les exploitations agricoles. Ils s'échangent des informations. Et par exemple, un principe tout simple, c'est on ne détruit pas un animal tant qu'on ne le connaît pas. Vous avez un insecte dans la main, mais avant de le tuer, comme c'est le réflexe souvent de bien d'entre nous, hein, eh bien, on va apprendre à le connaître. On va d'abord le connaître, on va l'observer, etc. Et ça, je crois que c'est une posture complètement différente dans laquelle, au lieu d'être en position dominante sur la nature, eh bien, on est avec elle et on va vivre avec elle. Et ça, je crois que c'est un mouvement qui est assez important à avoir. Mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Hier, j'étais à la ferme des Amanins, au-dessus de Granes, dans la vallée de la Drôme. Eh bien là, ils ont créé une école de la coopération, une école pour les enfants, petits-enfants, dans laquelle, dès le plus jeune âge, ils apprennent à coopérer entre eux. Eh bien, à côté, il y a une ferme en bio qui valorise directement ses produits avec une cuisine sur place, etc. Et donc, il y a d'autres lieux comme ça. Maintenant, il y a des lieux. Et ça, je crois qu'à chaque fois, il faut aussi bien repérer qu'on utilise du patrimoine. Là, dans la ferme du Grand Laval, c'est tout simplement le patrimoine naturel, ce qu'on appelle le patrimoine naturel, qui est omniprésent.
Et qui vient rencontrer le patrimoine, le savoir-faire paysan, voilà, du coin. Et ben, tu viens de nous décrire donc trois articles différents et qui résument très bien donc cette multitude de définitions du patrimoine et de son actualité, de sa nouvelle définition en lien avec la transition. Là, on a parlé donc des articles qui concernent plus ou moins le Royan-Vercors et ses alentours proches, mais évidemment, donc le numéro de cette revue et ses 12 articles nous emmènent un peu partout dans la Drôme. Il y a des articles qui vont un peu plus vers le sud, vers le Diois, vers Dieulfi. Enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de richesses à découvrir donc dans ce numéro, avec des articles qui sont très abordables, comme tu disais, c'est la pédagogie et la vulgarisation de ces savoirs et de ces connaissances, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Si des auditeurs et des auditrices sont intéressés pour se procurer ce numéro, donc le numéro 100 d'études drômoises, où est-ce qu'ils peuvent se rendre? Est-ce que vous en avez dans le coin en vente
Alors, malheureusement, Royan-Vercors, il y a un seul point de vente, c'est la librairie Baravin des Espelines à Vassy-en-Vercors. Mais on espère pouvoir élargir le réseau de diffusion, parce que c'est une difficulté pour une revue comme ça. Alors, le meilleur moyen, c'est de s'abonner à la revue. La revue, elle coûte 10 euros. La revue, ce qui est un prix assez significatif, mais vous pouvez vous abonner pour 35 euros par an pour 4 numéros. Et puis, il y a aussi un autre support, c'est le site internet. Alors, tout simple, hein, études drômoises, études au pluriel, avec un S, drômoises au pluriel, .fr. Et puis, vous accédez d'abord au site, vous voyez la liste des points de vente, il y en a 21 dans la Drôme. Et puis, vous voyez, vous avez accès aussi à la mémoire des numéros les plus anciens. Vous verrez, par exemple, les premiers numéros René Hauté, qui restent une vraie merveille, hein, pour découvrir le patrimoine et la façon de l'appréhender, c'est quelque chose de très très intéressant.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, suite à cette interview, j'en ressors avec quelque chose d'assez positif, d'assez stimulant, de relire en fait tout ce qui nous entoure avec ce regard-là et de pas laisser le patrimoine comme une sorte de vieillerie qui appartiendrait au passé. Je trouve ça vraiment hyper intéressant et ça ouvre la curiosité. Et donc, on le rappelle, donc vous vendez votre revue aux Espelines à Vassieux. Il y a de la neige, c'est le bon moment pour aller sur le plateau, faire une balade, aller se réchauffer aux Espelines après.
Et puis boire un coup.
Voilà. Et sinon, donc vous êtes du côté de Valence, dans plusieurs librairies, à Romans, au Cordelier. Voilà, peut-être avec la nouvelle librairie qui va s'ouvrir à Saint-Jean, on espère pouvoir la trouver aussi plus localement.
Bah, je vais y aller de ce pas.
Donc à la librairie de la Bouillotte. Merci beaucoup Pierre-Antoine pour cette présentation donc du numéro 100 de la revue Études Dromoises, donc la revue du patrimoine de la Drôme qui est parue en décembre 2024. Est-ce que tu aurais un petit teasing sur la thématique du prochain numéro, du numéro 101 ou c'est secret ?
Non, c'est le numéro 101, c'est une localisation particulière de la Drôme, c'est l'enclave de Valréas. Donc c'est pas dans la Drôme, mais ça y est quand même puisque c'est une enclave dans le département et ça va traiter de son histoire, mais aussi de l'actualité économique, de la géographie, à la fois l'histoire et la géographie. Est-ce qu'on peut finir par une citation ?
Vas-y, je t'en prie.
C'est l'histoire, c'est la géographie dans le temps et la géographie, c'est l'histoire dans l'espace. Et c'est d'un géographe extraordinaire qui s'appelle Élisée Reclus qui était anarchiste. Et lui aussi, il était bon pour penser les transitions.
Eh ben, merci beaucoup, Pierre-Antoine. On reste sur cette belle citation. À bientôt.